France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
New York, Mexico, Rio de Janeiro, Bruxelles, La Havane, la musique et le monde. C'est notre nouveau rendez-vous au Carrefour des Amériques. Bienvenue donc à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui commencer notre périple à New York et plus précisément au Spanish Harlem qui au début des années 40 est en plein essor. Les Portoricains y émigrent en masse et se mêlent aux Cubains, aux Dominicains et autres Latino-Américains sans parler des populations noires de New York. Le chanteur Frank Grillo, que ses parents avaient appelé le petit mâle, El Machito, a quitté la Havane en 1937 pour New York. Quand il rencontre le trompettiste cubain Mario Bausa, qui joue à l'époque avec Dizzy Gillespie, c'est décidé, ils fondent tous les deux un orchestre, The Afro-Cubans. Avec une section de trompette et de saxo, appuyée par une percussion cubaine, menée de main de maître par l'exubérant Chano Pozo, qui venait lui aussi d'arriver à New York. Et ils sont tous engagés au très chic hôtel Park Plaza. Dès leur première saison, ils font un succès avec la chanson « La sopa de pichón », la soupe aux pigeons, oh, très emblématique du brassage de culture au Spanish Harlem. Il s'agit d'une blague de Portoricains dont beaucoup arrivaient très pauvres à New York. « Si tu as faim, mais fais-toi donc une soupe de pigeons » sous-entendu « Il y en a plein la ville. » Dans l'enregistrement, Chano Pozo est au tambour, Tito Puente à la batterie. Les musiciens évoquent la campagne cubaine et Machito lance le solo de piano final qui se met à danser au rythme du zapateo, comme autrefois dans les campagnes cubaines. Nostalgie, nostalgie. Bienvenue au Spanish Harlem, à l'est de Manhattan, autour de la 110e rue et de Lexington Avenue. On est dans les années 40.
Tienes que tomarte una sopa.
décembre 1941, ce sont les États-Unis qui sont cette fois à Cuba, en la personne du compositeur Aaron Copland. Après son voyage au Mexique et son escale à Cuba en 1932, où il avait découvert le danzón cubain, il veut repartir à nouveau en Amérique latine. Il est le premier à vouloir réunir un jour tous les compositeurs des Amériques et à les faire se rencontrer, ce qu'il va réaliser à l'Académie d'été qu'il vient de fonder sur la côte Est au Festival de Tanglewood, résidence d'été de l'orchestre de Boston et où le chef d'orchestre Serge Koussevitzky l'a invité comme professeur. Son projet de voyage reçoit le soutien de Nelson Rockefeller, un voyage latino-américain qui va durer du 19 août au 9 décembre 1941. D'abord le Mexique, le Guatemala et la Colombie, puis le Pérou, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Et enfin, Rio de Janeiro, d'où il s'envole le 2 décembre 1941 pour atterrir à l'aéroport de La Havane, où il reste 10 jours. Les 3 et 8 décembre, il donne des conférences au Lyceum sur la musique de film et sur les compositeurs américains actuels. Il rencontre bien sûr des compositeurs cubains, comme le populaire Gilberto Valdés. Ce pourrait être le George Gershwin cubain, écrit-il dans son journal. Mais il manque de formation technique. Par contre, José Ardévol est un musicien intelligent, sérieux, dont les œuvres mériteraient d'être mieux connues en Amérique du Nord. Le 9 décembre à 21h30, il est sur les ondes de l'excellente radio du ministère de l'Éducation, où il fait entendre des œuvres de compositeurs américains, ainsi que sa musique pour le théâtre et surtout El Salón México, souvenir d'une soirée passée en s'en canaillant quelque peu dans cette salle de danse des faubourgs de Mexico. Mais c'est surtout une œuvre où il se souvient avec tendresse et nostalgie du Mexique qu'il a toujours beaucoup aimé. Thank you. Une interprétation très latino-américana du Salón Mexico de Aaron Copland. C'était la pianiste argentine Marcela Ruggeri et le pianiste brésilien Marcel Bratsky qui l'interprétaient. Aaron Copland était donc passé par le Brésil, par Rio de Janeiro, le 5 novembre 1941. Le compositeur Aitor Villa-Lobos lui avait fait connaître les écoles de samba sur les morros, les collines au milieu de la ville. Ses rythmes lui avait rappelé ce qu'il avait entendu en 1932 à Cuba. C'est tout un univers très métissé, tellement plus métissé qu'aux États-Unis, qu'il entend dans la musique brésilienne de concert, en particulier chez Villa-Lobos. Une musique brésilienne, curieusement, à l'honneur cette année-là aussi à La Havane, lors du récital de la soprano brésilienne Bidu Sayão, dans le cadre de la saison de récital organisée par la société féminine Pro Arte. Elle succédait à Yehudi Menuhin et à la soprano Janet McDonald, star du cinéma hollywoodien. Bidu Sayão faisait ces années-là les beaux soirs du Metropolitan Opera de New York. À La Havane, la salle est bondée. Le 7 mai, elle chante un air de Manon de Massenet, la valse de Juliette, de Roméo et Juliette de Gounod, quelques mélodies françaises et espagnoles, et aussi, bien sûr, des mélodies brésiliennes, comme la populaire Modinha du 19e siècle, A Casinha Pequenina. Te souviens-tu de la petite maison où est né notre amour? De tes promesses, de tes baisers, du palmier adossé à la maison qui depuis est mort, de saudade, la saudade, cette nostalgie qu'on ne ressent qu'au Brésil.
Okay.
Et on retrouve Aaron Copland à La Havane quand les 9 et 10 décembre 1941, Martha Graham arrive à Cuba et danse avec son ballet au théâtre Auditorium. Curieusement, il n'en parle pas dans ses mémoires. Pourtant, quel événement ça a été à Cuba. La saison de ballet avait repris le 26 mars avec les ballets de Monte-Carlo du colonel Basile et Alberto Alonso en soliste avait fait un triomphe dans le Coq d'Or. Alberto et sa femme, la danseuse canadienne Alexandra Denisova, dansaient en Europe avec les ballets de Monte-Carlo quand la guerre les avait obligés à se réfugier aux États-Unis. De retour à La Havane, tous deux avaient pris la direction de l'école de danse de Pro Arte. Quant à Fernando et Alicia Alonso, ils étaient restés à New York. Alicia commençait déjà à avoir de gros problèmes aux yeux et ses camarades devaient souvent lui venir en aide en scène. À La Havane, le 11 décembre, Copland donne une conférence au Cinecito, un petit cinéma d'art et d'essai de La Havane avec la projection de deux films pour lesquels Copland a écrit la musique. Le soir, il est l'invité de José Ardévol au Lycéum de La Havane. Il joue sa sonate pour piano et Ardévol dirige des œuvres américaines à la tête de son orchestre de chambre, dont Quiet City, la ville tranquille de Copland. La situation internationale préoccupe beaucoup le compositeur américain. Le soir du 8 décembre, il avait écrit dans son journal « Cela fait maintenant 4 mois que je suis parti. Les Japonais ont attaqué Pearl Harbor hier. Cela me semble tellement étrange d'être à Cuba alors que les États-Unis sont en guerre. »
Thank you.
Quiet City de Aaron Copland, l'orchestre symphonique de Londres, était dirigé par Michael Tilson Thomas. Aaron Copland a quitté la Havane pour les États-Unis le 12 décembre 1941, plein de musique latino-américaine dans la tête. Curieusement, pendant son séjour à Cuba, il ne s'était pas intéressé à l'une des musiques essentielles de la culture cubaine, le boléro, qui dans les années 40 était déjà très influencé par le jazz américain. Un genre trop sentimental, sans doute, pour lui. En tout cas, en 1942, il y a un boléro qui ne passe pas inaperçu à Cuba. On disait même à la Havane que seuls les muets ne le chantaient pas. Tres palabras, trois mots, de Osvaldo Farrés, un compositeur dont les boléros parcourront toutes les années 40. Je te fais un aveu. En trois mots, je te dirai ce que j'ai à te dire, et ça vient du fond du cœur. Ces trois mots, tu me plais.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está despierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y estas palabras son como me gustan.
Cuba, en 1942, le président Fulgencio Batista choisit deux ministres parmi les leaders communistes les plus importants, dont l'écrivain Juan Marinello. Ses opposants l'appellent d'ailleurs le traître rouge. Le gouvernement suit de près ce qui se passe en Europe. Un hommage au comité de la France libre à Cuba se tient au Vedado Tennis Club et Philippe Grousset, le représentant de De Gaulle aux Antilles, est présent. Batista suit aussi de près la situation aux États-Unis. À New York, Aaron Copland a découvert son pays en état de guerre, mais il continue à composer avec plus de force encore. Le danson cubain qu'il avait en tête depuis son premier séjour à la Havane prend forme enfin. Il l'écrit à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Ligue des compositeurs américains. C'est Aaron Copland lui-même et Leonard Bernstein qui le créent dans la version originale pour deux pianos au Town Hall de New York, le 17 décembre 1942. La création à la Havane a lieu le 14 mars 1945 et la journaliste Nenita Benitez est très sévère. Copland n'a pas compris et ne comprendra jamais ce qu'est le rythme cubain. Et Copland réplique très intelligemment. « Je n'ai pas essayé de reproduire un authentique danson cubain. Je me suis senti libre de lui ajouter ma petite note personnelle avec ses accents déplacés et ses mesures de silence inattendues. »
Carrefour des Amériques, deuxième série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
En cette année 1942, la vie littéraire et théâtrale connaît un nouvel élan à La Havane. Depuis son retour à Cuba, l'écrivain cubain Alejo Carpentier est rédacteur en chef d'une revue culturelle. Il fait aussi de la radio, comme autrefois en France, et il réalise une adaptation radiophonique du Don Quichotte. Enfin, il donne des cours d'histoire de la musique au conservatoire. En 1942, il organise, avec le succès qu'on attendait, la première exposition consacrée à Pablo Picasso à La Havane. Quant au jeune écrivain Virgilio Piñera, il participe à la revue Espuela de Plata, l'éperon d'argent, fondée par le célèbre écrivain Lezama Lima en 1940. On commence à parler de Virgilio Piñera suite à la publication de ses recueils de poèmes et surtout de sa pièce Electra Garrigo, une version très cubaine et populaire du mythe d'Electre et qui intéresse déjà des compagnies théâtrales. Le prix Nobel de littérature Sinclair Lewis, qui visite Cuba en 1942, est frappé par le dynamisme de la vie littéraire et musicale. Quant à Ernest Hemingway, il passe à présent ses hivers à Cuba, mais il est surtout sur son bateau ou au bar de la vieille Havane. De toute façon, la littérature cubaine ne l'intéresse pas. C'est surtout la musique qu'il aime à Cuba.
Thank you.
Le Don Son Cubano d'Aaron Copland par nos deux compères latino-américains Marcela Ruggeri et Marcelo Bratzke au piano. En 1942, l'élégant salon du Waldorf Astoria de New York affiche complet depuis des semaines à l'heure où chante l'élégant Latin lover Tito Guisar, le ténor mexicain, qui s'apprête à rejoindre Cuba en mars, où la radio CMQ vient de l'engager. Guisar, qui avait même étudié avec le ténor italien Tito Skipa. À Cuba, le succès sera encore plus impressionnant qu'à New York, et il reviendra régulièrement à la Havane jusqu'en 1951, où il sera cette fois une des premières vedettes du show du Rome Bacardi à la télévision. On l'écoute enregistré à Cuba en 1938 avec l'orchestre Casino de la Playa. À présent, mon amour, nous allons être heureux. J'ai enfin la maison que je t'avais promise.
Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti. Para mí será un refugio de amores, será una cosa ideal. Y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad, hace falta una cosita. ¿Qué será? ¿Qué será? Es una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad.
La saison musicale 1941-1942 est d'un très haut niveau à la Havane. C'est Massimo Freccia qui est à la tête de l'orchestre philharmonique. En février, il dirige le Requiem de Verdi dans un théâtre auditorium bondé pour les deux concerts. Ça fait tout de même plus de 5000 spectateurs. Et c'est l'occasion pour le nouveau chœur du philharmonique, fondé et dirigé par Paul Kshonka, de faire ses preuves. Et c'est une vraie réussite. Le 31 mars, les Wagneriens cubains sont aux anges. Le baryton Friedrich Schorr est à la Havane pour chanter les adieux de Wotan et le grand monologue des maîtres chanteurs de Wagner avec le philharmonique. Pour l'occasion, le théâtre Auditorium accueille le public des grands soirs, la salle est pleine, il y a décidément un public wagnérien important à Cuba. Friedrich Schorr était né en 1888 dans une famille juive de Hongrie. Il avait fui l'avancée des nazis, il avait émigré aux États-Unis et il était immédiatement entré dans la troupe du Metropolitan Opera de New York, qu'il quittera d'ailleurs en 1943. Mais c'est encore un Friedrich Schorr en pleine possession de ses moyens qui arrive à la Havane en 1941. Et dans les adieux de Wotan, qu'il chante toujours avec un legato superbe, il arrache des larmes. « Friedrich Schorr dans les adieux de Wotan de la Valkyrie de Richard Wagner avec l'orchestre du Staatsoper de Berlin sous la direction de Léo Bley. C'est le clarinettiste cubain Paquito de Rivera qui se souvient. Quand j'étais enfant, mon père avait ouvert une modeste entreprise d'import-export et de vente d'articles musicaux dans la rue Consulado, où venaient toujours plein de musiciens célèbres, comme Cachao, Chico Farril, Ernesto Lecuona, le pianiste Jorge Bolet et son frère Alberto. Et un homme très grand. Il avait l'air d'un acteur de cinéma. Il venait acheter des partitions de Chopin, de Liszt et d'autres compositeurs européens. Son nom, René Touzet. Un des compositeurs les plus respectés par ses collègues dans la musique populaire, sans doute à cause de ses connaissances et de sa formation académique. Un jour, il est parti à Los Angeles. Je ne l'ai plus revu pendant longtemps, mais je ne l'ai jamais oublié. Un jour, j'ai arrangé son boléro le plus célèbre, « No te importe saber »,« Cela t'est égal, que je t'aime ou pas », dans mon disque Portrait de Cuba. Et ce CD a gagné un Grammy Award. Je l'ai revu quand j'ai joué le concerto pour clarinette de Mozart à Miami. René Touzet était dans la salle avec sa guayabera blanche et je me suis souvenu de mon père, dans ce petit bureau de La Havane. Dès la fin des années 30, et surtout au début des années 40, René Touzet était très populaire. On écoute un autre boléro très connu de lui, Has dudado de mí, tu as douté de moi. C'est le trovador Codina qui le chante, avec cette manière très intime et ce style qui va être très à la mode dans les années 50, que l'on a appelé le feeling.
Cuando mal me hacían sufrir tus devaneos, te abandonaste, sedienta de amar, y loca por la fiebre del deseo, tu cuerpo me entregaste sin pensar, mas luego ya calmada la locura que tu ardor de mujer te aconsejó, sorprendí en tu mirar una cruel duda en lágrimas ardientes se convirtió. Has dudado de mí sin pensar que tu amor lo es todo para mí, vida, luz y calor. Has dudado de mí sin pensar que mi amor solo vive por ti, que eres tu refulgente sol. Creíste que al poder mis deseos saciar, ya no te iba a querer, que te iba a abandonar. Mas no turbe tu calma, adorada mujer, pues es tuya mi alma, como es tuyo mi ser.
L'automne musical est toujours riche en événements à La Havane. En octobre 1941, il faut encore louer le talent des femmes de Proarte quand elles invitent le violoncelliste Emmanuel Feuermann. La renommée de Pablo Casals a un peu éclipsé la carrière de ce génie du violoncelle. Né en Pologne en 1902, puis professeur au conservatoire de Berlin, les nazis le démettent de sa charge. Il part alors avec Hindemith à Londres, fait des tournées en Europe et surtout aux États-Unis, où il crée le concerto pour violoncelle de Schoenberg. Il part à Zurich, puis à Vienne en 1938, où il se retrouve à l'époque de l'Anschluss. Il parvient à fuir à temps en Palestine, puis aux États-Unis, où il joue avec l'orchestre de la NBC et avec les plus grands musiciens. En automne 1941, il vient d'être nommé professeur au Curtis Institute de Philadelphie quand il fait le voyage à La Havane pour y jouer le 20 octobre avec l'orchestre philharmonique. Emmanuel Feuermann est mort à New York en mai 1942. Il n'avait que 40 ans. Le rondo de Dvorak par Emmanuel Feuermann au violoncelle, enregistré à New York en public peu avant sa mort en 1941. Le chef belge et américain Léon Barzin, né à Bruxelles en 1900, dirigeait ici la National Orchestra Association, le premier orchestre de jeunes aux États-Unis qu'il avait fondé. Depuis 2002, L'Académie de Kronberg, près de Francfort, où a été créé le conservatoire Feuermann, organise tous les 4 ans un concours de violoncelle qui se tient à Berlin, en liaison avec l'Université des Arts de cette ville, et qui s'appelle le Grand Prix Emmanuel Feuermann. Depuis quelque temps, dans ces années 40 à La Havane, il y a une voix cubaine qui se fait remarquer, et que les radios vont bientôt s'arracher. On l'a entendu la première fois dans l'émission la plus populaire de la radio CMEKU, La Corte Suprema dell'Arte, le Tribunal Suprême de l'Art, qui est un peu l'ancêtre de nos radios crochets et autres Star Academy. Elle remporte le prix en chantant Mango Mangue. Elle deviendra la chanteuse la plus célèbre de Cuba. C'est Celia Cruz, qu'on écoute ici avec l'orchestre La Sonora Matancera, dans cette chanson d'une vendeuse de mangue qui vante ses meilleurs fruits de Cuba. Elle est enregistrée en public dans le studio de Radio Progreso de La Havane dans les années 40. Et c'est avec la grande diva cubaine Celia Cruz, et j'espère que vous vous êtes mis à danser, que s'achève cette émission. Rendez-vous donc dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics, réalisée par Géraldine Prutner et Pierre Monteil, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.